Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour partager ce moment avec moi. Donc c'est ma première visioconférence, hein, comme je l'ai dit. Donc j'espère que vous serez indulgents avec ma prestation. Donc on va parler donc de la consultation. Il va y avoir plusieurs parties qui vont expliquer un petit peu qu'est-ce que la consultation et comment on doit la pratiquer. Donc, pourquoi on appelle ça la consultation bail? Ben, tout simplement pour la différencier de la consultation classique, hein. Et puis aussi parce qu'elle a été instaurée en même temps qu'est née la foi bail, donc il y a 170 ans. C'était simplement pour préciser que comme elle est née avec cette religion il y a 170 ans, ça montre bien que son processus était très moderne, très en avance sur son temps, parce que ça fait quand même 170 ans que ça a été énoncé, et quand on la pratique au quotidien, on se dit que c'est quand même quelque chose de très novateur. Et pourtant, elle a été instaurée dès son origine dans le processus comme essentielle dans l'administration bail énoncée par Baha'u'llah, aussi aux relations au sein de la communauté et en famille. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être utilisé à chaque moment de la vie quotidienne. Donc, déjà, quand on parle de consultation, qu'est-ce que vous entendez par consultation? Pour vous, quand on vous dit ce mot-là, ça vous évoque quoi en fait?
Un échange.
Pardon,
Un
Michel?
échange.
Un échange,
Un échange.
oui. Oui. Quoi d'autre? Lita?
Oui, plus qu'un échange pour moi, c'est arriver à une comment dire, arriver à une décision finale.
Alors, la consultation classique, hein, la définition quand on regarde de Larousse de consultation, toi qui es médecin, ça t'évoque quoi, justement?
Faire une ordonnance, oui. Faire un diagnostic déjà.
Voilà, donc c'est donner un avis sur quelque chose qui t'est présenté en fait. Donc faire un diagnostic, ouais. En tant qu'expert, on peut dire, tout ce qui est consultation d'un juriste, d'un médecin, d'un avocat, on vient chercher un avis d'expert en fait. Après, qu'est-ce qu'on peut entendre encore comme consultation? Quand on consulte quelqu'un, quelque chose.
C'est pour
Un
savoir,
conseil.
c'est pour un, oui, des conseils pour
Demander un conseil.
Demander un conseil, oui. Donc d'expert, voilà ce qu'on a dit. Et ça peut être
Ouais,
aussi
c'est ça.
consulter un livre, hein, donc aller à la recherche d'une information, ou dans le dictionnaire, ou Google, ou qui vous donne pas forcément la bonne information que vous cherchez, mais voilà. Donc
Pour
tout ça, c'est
comprendre.
des actions qui consistent à consulter quelqu'un ou quelque chose. Mais dans toutes ces consultations, quelles qu'elles soient, c'est plutôt une relation unilatérale. Donc, on va nous-mêmes chercher sur Google ou consulter, ou alors bilatérale, éventuellement avec un médecin, un expert. Mais il n'y a pas vraiment de consensus sur la décision, en fait. Hein. C'est, il vous donne un avis, vous donne un traitement, il vous donne la procédure à suivre, mais en fait, vous n'avez pas d'échange vraiment, alors peut-être plus dans la médecine éventuellement, si vraiment le médecin est à l'écoute, mais quand vous allez voir un avocat, il ne cherche pas forcément à avoir un consensus sur la méthode à appliquer. Donc, la consultation, par contre, chez les BAE, c'est pour désigner un processus collectif, donc multilatéral, on va dire, de prise de décision sur le mode de la concertation. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même base au départ. Donc, ce processus, donc, comme on l'a dit, a été instauré par Baha'u'llah, qui en donnait cette définition. La consultation est enjointe comme moyen de parvenir à un accord et définir une démarche collective pour aller de l'avant. Donc, ça comprend déjà rien que cette phrase, pas mal de choses. Donc, forcément, il y a un accord, c'est collectif et c'est pour aller de l'avant. Donc, le but, c'est l'action, la décision. Donc, c'est pour prendre une décision éclairée dans un but commun, arriver à trouver une solution à un problème. Donc forcément, c'est pas dans les réunions, il n'y a qu'un faucon, puis on verra après. Non, là, il y a une réflexion, il y a une décision et il y a une action qui en découle. Ou parfois, dans le principe Baha'i, justement, souvent, c'est on fait l'action et après on consulte sur qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut changer. Et on refait les modifications et on refait l'action. C'est plutôt dans ce sens-là maintenant. Donc, voilà. Donc, comment est-ce qu'on consulte? Eh bien, il y a tout un état d'esprit qui va avec la consultation. C'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Donc, cet état d'esprit, il est bien différent des procédés qu'on a couramment dans la société, hein, des consultations qu'on a pu voir précédemment. Et l'idéal de la consultation Baha'i, c'est d'arriver à une décision unanime, que tout le monde soit d'accord pour avoir l'unité. Alors, si vraiment on n'y arrive pas, bon, on passe à un vote, mais l'idéal, c'est d'arriver à une décision unanime, avec la conviction que nul ne peut prétendre détenir la vérité et que le meilleur moyen de s'approcher de cette vérité, c'est de trouver des solutions aux problèmes posés, c'est la sagesse collective. Donc voilà, pour illustrer un petit peu ce principe, on va voir une petite histoire. Donc là, je vais partager mon écran, donc j'espère que tout le monde le verra, que certains sans doute connaissent déjà, hein, c'est les savants aveugles avec l'éléphant, donc je vais vous la partager. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien lire le texte, s'il vous plaît?
Je veux bien.
On t'écoute. Ça?
Oui, oui, oui. Okay. Six aveugles instruits, curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et près de son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur. » Le deuxième tâtant une défense, s'écria « Oh, 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 lisse et pointu. Selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. » Le troisième prit la trompe ondulante dans ses mains et s'écria « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main, palpa le genou de l'éléphant et décida qu'il devait ressembler à un arbre. Le cinquième, ayant touché l'oreille, dit « Cette merveille d'éléphant est comme un éventail. » Le sixième, s'emparant de la queue qui balayait l'air, « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Les six aveugles discutèrent longtemps avec passion, chacun défendant sa perception de ce que pouvait être un éléphant. Ils avaient bien du mal à s'entendre. Un sage qui passait par là les entendit se disputer et demanda « Que se passe-t-il? Quel est l'objet de vos échanges si passionnés? Nous n'arrivons pas à nous. Nous n'arrivons pas, nous, à mettre d'accord. »
Pardon.
Ouais. Oui. Sur ce que peut être un éléphant et quoi il peut ressembler et à quoi il peut ressembler. Après avoir écouté chaque aveugle sur ce qu'il avait compris, le sage dit « Vous avez tous dit vrai. L'éléphant a réellement les caractéristiques que vous avez tous décrites. Et si vous rassemblez l'ensemble des caractéristiques que vous avez données, vous pouvez avoir une représentation de l'animal dans son ensemble. » Et la discussion s'arrêta net. Ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité. Chacun détenait une part de vérité et était heureux d'avoir contribué à la construction d'une réalité plus grande. Plus grande que la seule addition des caractéristiques apportées par chaque aveugle. La vérité n'est jamais le résultat d'un seul point de vue ou d'une seule perception. Une vérité nouvelle peut émerger des mises en commun des vérités individuelles. De cette mise en commun peut naître une perception globale qui inclut et transcende l'ensemble des vérités individuelles.
Voilà. Cette petite histoire qui nous donne déjà une petite base de réflexion. Est-ce que vous avez des commentaires, des choses que vous souhaitez partager?
Eh bien, c'est en se mettant tous ensemble qu'ils sont arrivés à la définition de cet animal. Finalement, il n'y en a pas qu'un seul qui a dit ce qu'il ressentait.
Voilà.
Ça a été... Ils se sont accordés après.
Donc, on retrouve un petit peu les bases de ce qu'on a dit tout à l'heure, un accord. Voilà, après, il y a quelques petites choses aussi qui vont nous servir pour tout à l'heure, pour expliquer un petit peu plus l'état d'esprit dans lequel on doit être pour la consultation. Donc voilà, j'ai pensé que cette histoire pouvait être intéressante pour commencer. Donc, par contre, la consultation Bahá'í, elle, c'est un réel changement de perception qui n'est pas simple à acquérir. Tant on a d'habitude de réfléchir avec notre ego et de réflexes de l'ego. Donc, même après de longues années de pratique, il est parfois difficile de se tenir au principe de consultation, en fait. L'important est de garder en tête ce vers quoi on doit tendre et s'efforcer de les mettre en pratique. Ensuite, on va passer à un petit texte qu'on va lire aussi, qui va présenter les bases de l'attitude qu'on doit avoir lors de la consultation. Voilà, donc Daniel, si tu peux commencer, s'il te plaît.
Ils doivent entreprendre leur tâche avec extrême humilité et essayer, par leur esprit large et leur raisonnement, leur sens de la justice et du devoir, leur franchise, leur modestie, leur dévouement complet, de gagner non seulement la confiance, le vrai support et le respect de ceux qu'ils servent, mais également leur estime, considération et affection réelle. Ils doivent en tout temps éviter l'esprit d'exclusivité, l'atmosphère de secret, se libérer d'une attitude autoritaire et bannir toute forme de préjugés et de passion de leur délibération.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez des commentaires et des remarques sur ce petit texte?
Mais « il », c'est qui, « il » ?
C'est les gens qui consultent, en fait. Ça peut être une assemblée, une fête de 19 jours, une réunion de réflexion. Alors, c'est plutôt peut-être dans les assemblées, puisque c'est respect de ceux qu'ils servent. Donc, voilà. Donc, ça pose, ce que je disais tout à l'heure, un réel changement de perception. Et puis, c'est aussi très difficile à mettre en pratique, toutes ces qualités. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Peut-être, si personne n'a de commentaires, on peut, pour mieux comprendre, se poser la question, qu'est-ce que ça implique si je ne respecte pas ces postures qui nous sont données pour la consultation? Qu'est-ce que ça engendrerait comme problème, en fait? Si, par exemple, si je ne bannis pas toute forme de préjugés dans ma consultation, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là?
Pour moi, c'est en fait un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Et puis antipathie aussi. Donc, en fait, ce qui est important, pour moi, ce que je retiens, c'est affection réelle de toutes les personnes qui sont en consultation. Donc, voilà.
Et respect.
Le respect, ouais, tout à fait. Donc, si on n'est pas humble et qu'on ne respecte pas les autres, par exemple, on ne laisse pas la parole à l'autre, on n'a pas d'écoute. Donc, forcément, l'unité, elle n'est pas respectée. Comme on a dit pour les préjugés, c'est pareil. On est aveuglé par nos préjugés, on ne laisse pas la parole à quelqu'un parce qu'on considère qu'il n'a pas droit à la parole du fait de nos préjugés. Et donc, forcément, y en a qui n'ont pas le droit à la parole, comme on a vu tout à l'heure, si au lieu des 6 aveugles, il n'y en avait que 4 qui avaient eu droit à la parole, on n'aurait pas eu la vision la plus complète de la vérité. Donc, c'est pareil, si on a une atmosphère de secret ou si on n'a pas la franchise, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la consultation? Il peut y avoir de l'hypocrisie, de la rancœur, des malentendus. Voilà, tout ça, ça remet en question de toute façon l'unité de la consultation. Il faut vraiment mettre en pratique toutes ces injonctions qu'on nous donne pour arriver à l'unité dans la consultation. C'est pareil, on voit la passion. Tout à l'heure, dans l'histoire, voilà, ils avaient une discussion passionnée. Et donc, justement, comme elle était passionnée, ils n'arrivaient pas à prendre la bonne décision, à avoir la vérité devant eux, quoi, en fait. Hein.
Parce que chacun pense avoir sa vérité.
Et si voilà.
On n'a pas les vérités ensemble, on n'arrive à rien, On va rester jusqu'à la fin avec son propre idée et sa propre vérité.
Tout à fait. Alors à ça, on pourrait aussi rajouter la compassion, parce qu'il faut se mettre à la place de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Qu'est-ce qui l'amène à avoir cette vision du problème par rapport à moi, qui est mon expérience, mon vécu, qui voit le problème de cette manière-là? Il faut aussi être détaché par rapport à une opinion qu'on soumet, et même si elle a pas, si elle retient pas l'attention de tout le monde, bah c'est pas grave. On a dit ce qu'on pensait nous-mêmes, et après, bah, si on a, y a pas d'attente de retour des autres qui consultent. Il y a aussi la patience pour prendre le temps justement de consulter, de trouver cette vérité. Qui parfois peut être un peu longue à identifier, et puis la coopération. Voilà, c'est un petit peu le premier principe de la consultation, donc préserver l'unité du groupe avec toute cette
diversité.
Toute cette diversité et tous ces principes qu'il faut mettre en pratique, et c'est pas toujours facile, mais voilà, faut bien les garder à l'esprit.
Moi, je trouve que c'est intéressant parce que déjà, la foi bahaï, c'est pas statique, mais c'est progressif. Et en fait, il y a des mots que j'ai envie de... Donc, ils doivent entreprendre leur tâche avec extrême humilité et essayer par leur action, l'art, raisonnement, leur sens de justice, essayer de gagner. Donc, tout ça, c'est progressif, et la consultation, c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on peut l'apprendre. Mais on l'apprend déjà tout au long de notre vie de Bahaï, qu'on essaye au maximum d'être Bahaï, et puis d'essayer d'appliquer. Pour moi, c'est juste de montrer qu'on apprend tout au long de notre vie. Cette progression de comment consulter, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si on est arrivé à consulter à quelque chose et qu'on sent, qu'on pense, même si c'est à l'unanimité et qu'on pense que c'est juste, peut-être dans quelques mois ou dans un an ou deux ans, tout ça va progresser. Voilà, c'était juste, c'est de essayer et de gagner et de continuer à évoluer. Voilà.
Voilà. Et il y a aussi cette vision que c'est pour le bien de tous, hein. C'est ceux qu'ils servent. Donc c'est vraiment là, c'est le but est commun. C'est pas pour mon ego, pour moi, pour avoir quelque chose. Donc on va passer au deuxième point. Donc on va lire le petit texte qui est en dessous, si quelqu'un veut bien lire. Donc c'est sur la recherche de la vérité par l'expression de toutes les opinions et tout ça dans le respect. Donc il y a ce premier petit texte.
Moi je veux bien continuer.
Vas-y.
Alors, le but est de souligner l'affirmation que la consultation doit avoir pour objectif la recherche de la vérité. Celui qui exprime son opinion ne devrait pas l'exprimer comme étant opportune et juste, mais plutôt la présenter comme une contribution à l'unanimité d'opinion. Il n'est absolument pas permis de minimiser l'opinion exprimée par l'un des membres.
Voilà. Donc là, on voit que dans la consultation, toutes les personnes qui consultent ont un statut équivalent. et doivent exprimer leurs pensées en toute liberté. Donc, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il n'y en a pas un qui sait, l'autre qui ne sait pas, un qui a la connaissance, l'autre qui ne l'a pas, ou voire même quand c'est une consultation de la famille, un qui est un enfant, donc qui n'a pas le droit de s'exprimer, un enfant, un ado, alors que c'est une consultation familiale. Et personne ne doit aussi se sentir offensé si son opinion ne recueille pas l'assentiment des participants à la consultation. Hein. C'est vraiment chacun s'exprime librement. Et aussitôt que l'idée est présentée à la consultation, elle devient la propriété du groupe. Elle n'est plus la propriété de celui qui a émis l'idée. Donc ça encourage l'expression d'idées motivées par vraiment la volonté sincère de servir pour le bien-être de tous et pas l'intérêt de dire « c'est mon idée, c'est moi qui vous ai apporté la meilleure solution ». Pas du tout, c'est pas pour un désir de gloire personnelle. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement qui, en apparence, est simple, mais c'est vraiment déterminant pour la qualité de la consultation. Donc, bon, on le voit hein, dans les institutions Bahaï, toutes les consultations, dans les consultations, dans les assemblées, personne n'a plus de pouvoir que d'autres. C'est vraiment une consultation où tout le monde a sa place pour partager la consultation. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Ou est-ce qu'on passe au texte suivant? Eh bien, on va passer au texte.
Je pense que c'est clair. Hein.
Oui. Alors, il y a deux autres petits textes. Qui veut bien les lire?
Chacun doit peser ses opinions avec la plus grande sérénité et le plus grand calme. Avant d'exprimer son avis, il devrait considérer attentivement les points de vue qui ont déjà été présentés. S'il trouve qu'une opinion exprimée auparavant est plus vraie et plus valable, il doit l'accepter immédiatement et ne pas s'attacher à sa propre idée obstinément. Par cette excellente méthode, il essayera d'arriver à l'unité et à la vérité. Ils doivent exprimer leur vue avec la plus grande dévotion, la plus grande courtoisie, la plus grande dignité, le plus grand soin et la plus grande modération. Ils doivent, pour tous les cas qui se présentent, chercher la vérité et ne pas insister sur leur propre opinion, car l'obstination et la persistance sur un point de vue personnel conduiraient finalement à la discorde et aux querelles, et la vérité resterait cachée. Une telle attitude n'implique toutefois pas de renoncer à exprimer un avis. Au contraire, la franchise est indispensable, car de l'étincelle de la vérité jaillit du heurte d'opinions contraires.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires sur ces deux petits textes, ces deux écrits? Donc on voit bien que là, c'est vraiment la fusion ou les chocs d'opinion personnelle de ça que jaillit la vérité en fait. Hein. Et la solution qu'on peut trouver, ça peut être un mix de plusieurs opinions ou même carrément une autre opinion qui s'est dégagée, qui est apparue avec la confrontation de toutes ces opinions en fait. Hein. Alors c'est vrai que parfois on peut se dire, bon voilà, quand il y a beaucoup de... Enfin ça peut arriver, hein, quand on consulte, que la tension monte parce que personne n'est d'accord et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Bon, le but de la consultation, c'est vraiment aussi de créer un espace de camaraderie et d'enthousiasme à trouver une solution à un problème. Donc il n'est pas interdit, pour détendre un petit peu l'atmosphère, parfois de faire un petit peu d'humour ou de détendre l'atmosphère avec courtoisie pour que voilà, la consultation, ça doit aussi quand même rester quelque chose où, comme on disait au premier texte, hein, je vais remonter rapidement, justement, on était en confiance, on essayait vraiment d'être ensemble sur de servir en fait, et donc voilà, l'affection réelle, il faut créer cette atmosphère aussi dans l'assemblée, dans la consultation en fait. Est-ce que vous avez des rajouts à faire, des questions? Non.
Moi,
alors
moi,
bon, déjà,
bien...
oui, vas-y.
Moi, j'aime bien le mot, déjà, la franchise est indispensable. Et je reprends le texte d'avant où il disait qu'il ne faut pas qu'il y ait de cachotterie, de choses comme ça. Donc, il faut être vraiment franc. Et de temps en temps, s'il y a des éclats, c'est pas grave.
On a vu la première étape qui était donc de se mettre dans un contexte d'unité, de garder cette unité au sein des personnes qui consultent. La deuxième phase, c'était d'essayer de trouver la vérité avec toutes les participations, toutes les opinions de tout le monde. Donc, une fois que cette vérité, elle est identifiée, eh bien, il faut passer à la phase d'approbation de la décision et de l'acceptation de celle-ci dans l'action. Donc, on va continuer par d'autres petits textes. Si quelqu'un veut bien prendre la relève pour lire.
Il faut... exposer la vérité avec sobriété et si des différences d'opinion s'élèvent, une des voix doit prévaloir à laquelle tous doivent obéir et se soumettre. En résumé, quel que soit le problème, il suscitera la clarté s'il est étudié en harmonie et amour
et pureté d'intention. Il est préférable que toutes les personnes soient d'accord sur une mauvaise décision que d'être en désaccord sur un sujet tout à fait juste. Voilà. Donc, est-ce que ça vous évoque quelques petites choses, ce texte? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, ça m'inspire beaucoup d'espérance pour l'avenir, mais il faudrait que ce texte soit partagé par la société.
Bah, c'était le but ce soir, mais tu vois, Henri, on se retrouve qu'entre bails, malheureusement, ou quasiment, oui. Je ne sais pas, je ne peux pas trop voir.
Oui,
qui
voilà. En tout cas, cette démarche-là, elle fait rêver quand on connaît le monde tel qu'il est.
Voilà, donc là, on retrouve cette notion qu'on disait tout à l'heure d'harmonie, d'amour dans la consultation. Donc on étudie toujours les problèmes hein, avec harmonie, amour, pureté d'intention, donc sans ego, sans autre comment dire, émotion qui pourrait venir perturber notre décision. Et donc ce qui est très important, c'est qu'il est préférable que toutes les personnes soient d'accord sur une mauvaise décision que d'être en désaccord sur un sujet tout à fait juste. Et ça, c'est vraiment la base de la consultation BAE, c'est-à-dire que ce qui prévalue sur la justesse ou non de la décision, c'est l'unité. Donc, tous les participants, on le voit, doivent se soumettre à la décision qui a été prise, que ce soit à l'unanimité, donc là c'est facile, hein, quand c'est l'unanimité, évidemment tout le monde est d'accord, donc tous s'y soumettent, mais aussi quand c'est par vote, c'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas d'accord dans le vote, doivent ensuite considérer que cette décision, c'est celle qui est juste et donc, sans arrière-pensée, ils vont valider cette décision et la mettre en œuvre avec la certitude que c'est la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là, qu'elle soit ou non appropriée à la situation, en fait. Après, si la décision est la bonne, elle donnera les résultats escomptés. Mais si elle n'est pas bonne, eh ben, au moins on saura que ce n'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord, qui mettait un petit peu des bâtons dans les roues, qui freinait le groupe. Donc on saura vraiment que la décision, elle n'a pas marché parce que ce n'était pas la bonne. Et puis, de toute façon, toute erreur, c'est ce que disait Gita tout à l'heure, peut être corrigée. Si c'est finalement pas la bonne, on se consulte, on voit s'il y a des nouveaux éléments qui rentrent en jeu. Et à ce moment-là, on prend la décision qui tiendra compte de ces nouveaux éléments. À chaque fois, on tire les leçons de la consultation, de la mise en pratique, on réfléchit à l'expérience acquise et du coup, on apprend forcément. Hein. C'est ce qu'on dit toujours dans la fin, on est en phase d'apprentissage. Donc, voilà. Donc, on va continuer avec l'autre texte qui, justement, est la suite. Hein.
Je commence.
Allez, Christian. Oui, vas-y, Christian.
Ah,
de plus... il n'est pas permis à aucun membre de désapprouver ou de censurer, pendant ou en dehors des réunions, la moindre décision arrêtée précédemment, même si cette décision n'est pas juste, car de telles critiques risqueraient d'empêcher l'exécution des décisions.
Voilà. Donc ça aussi, ça vient compléter. C'est-à-dire que une fois que la décision est prise et qu'on est dehors avec la communauté, on n'a pas à désapprouver, censurer, critiquer, revenir sur la décision qui a été prise par l'Assemblée ou par d'autres institutions, parce que cette décision, elle a été prise en consultation et ça risquerait encore de freiner la mise en œuvre de la décision et de la faire capoter. Hein. Ceux qui peuvent travailler dans de la gestion de projet, bah, c'est pareil. Hein. Quand il y a des gens qui ne sont pas à fond dans un projet, quand on voit par exemple à une échelle d'un territoire, s'il y a des socioprofessionnels qui ne sont pas d'accord avec un projet, forcément, ça ne peut pas marcher parce qu'il faut que tous les acteurs soient réunis pour le projet et que s'il y en a un ou deux qui sont à l'écart, bah, forcément, il y aura des critiques qui vont faire boule de neige et que du coup, à un moment donné, on est obligé d'arrêter le projet parce que il peut y avoir un ou deux éléments au départ qui n'étaient pas d'accord et qui ont fait boule de neige. Voilà. Après la consultation, on est aussi libre de faire son débriefing personnel. Comme on a vu tout à l'heure en premier toutes les qualités qu'il fallait avoir, on peut se dire, bon, est-ce que j'ai bien mis en pratique tout ça? Est-ce que j'ai essayé de faire au mieux pour mettre en pratique tout ce qu'on m'a demandé? Est-ce que la prochaine fois, je peux pas m'améliorer? Est-ce que j'ai pas laissé parfois un peu aller mes préjugés? Est-ce que j'ai toujours écouté tout le monde? Voilà. Donc, c'est vraiment une démarche aussi d'amélioration personnelle, la consultation, et pas juste une démarche de décision aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? C'est clair pour tout le monde.
Oui. On voit que la consultation, en fait, ça touche à un gros travail sur l'ego, déjà. Mm. Bon, bien sûr, il y a tout le côté après bienveillance, respect, etc. Mais si déjà on arrive à se mettre un peu en retrait de son ego, on a fait déjà un grand pas, j'ai l'impression.
Oui. Tout à fait. Donc, cette consultation, en fait, comme on a dit tout à l'heure, elle peut être pratiquée par tout le monde, hein, que ce soit en couple, quand on décide d'un projet, d'une maison, d'une visite à la famille, ça peut être en famille, sur le partage des tâches dans la maison ou les projets de vacances. Alors, bon, en ce moment, ils sont un petit peu restreints, les projets de vacances, avec ses voisins, comment on organise la fête des voisins, travaux on fait dans la copropriété par exemple, mais aussi dans le travail, comme je disais tout à l'heure, une association, une gestion de projet, développement de stratégie, comment rendre nos actions plus efficaces. Voilà, il y a tout un tas de moments où on peut essayer de mettre en œuvre cette consultation ou au moins de certaines parties, parce que dans le monde professionnel, c'est pas toujours facile puisque la société n'est pas forcément encore prête à ce genre de choses. Mais voilà, pour que cette décision soit plus efficace et porte ses fruits. Donc, c'était quand même, vous le voyez, une révolution à l'époque où Paola a annoncé ce mode de consultation, ce mode de prise de décision il y a 170 ans, hein, parce que la situation en Iran à cette époque-là n'était pas forcément à donner la parole à tout le monde, que ce soit garçon-fille, que ce soit toute strate de la société. Donc, on peut comprendre que ça ait pu poser problème. Même actuellement, dans certains pays, dernièrement, on va dire, dans des pays d'Afrique où il y avait des consultations entre hommes au village, le fait de faire des consultations où les femmes étaient intégrées à la prise de décision, c'était aussi un grand changement au niveau de la société locale. Donc, c'est vraiment un processus qui met tout le monde acteur de la décision et qui donc crée l'unité au niveau de la société, au niveau de la communauté dans laquelle elle est intégrée. Ça renforce le vivre ensemble et ça améliore la relation entre les personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la construction d'une meilleure société. Oui, donc on parle beaucoup de la prise de décision individuelle, hein, dans notre société qui est très individualiste maintenant. il faut être capable de prendre une décision seule. On voit beaucoup dans le développement personnel être maître de ses choix, ne pas écouter les autres, ne pas se laisser influencer. Bon, en même temps, prendre une décision tout seul, est-ce que c'est vraiment notre propre décision vu comment on est influencé par les médias, les lobbies, les politiques, la publicité? Donc, c'est quand même important de consulter d'autres personnes pour être sûr de trouver la vérité dans la décision qu'on va prendre. Hein, parce que individuellement, tout seul, eh ben déjà on n'a pas, vous voyez, les savants, hein, tout seul, ils ont eu beau chercher tout seul, ils n'y sont pas arrivés. Donc rien ne vaut la consultation et la prise de décision collective. Après, donc, pour arriver à la suite, c'est vrai que comme disait Gita tout à l'heure, en tant que Bahaï, enfin maintenant, notamment les générations qui arrivent, on les a habitués dès tout petits à consulter, que ce soit dans les classes d'enfants, où on commence déjà à laisser s'exprimer chacun, le respect de l'avis, de l'opinion qui est donnée ou de la réflexion qui est faite. Donc déjà tout petits, ils ont cette culture de la consultation qui peut amener. Après, dans les groupes très jeunes, eh ben, ils sont amenés à faire des projets de quartier, donc à discuter, à mettre en place une consultation pour voir la meilleure solution pour résoudre un problème. Et bien entendu, après, dans la communauté adulte, dans tout ce qui est réunion de réflexion, fête de 19 jours, et évidemment, quand on est en assemblée locale, plus particulièrement, ou quand on est délégué pour aller élire l'Assemblée nationale, toutes ces réunions qu'on peut faire. Donc vraiment, cette consultation, elle nous suit tout au long de la vie, bah, en effet. Et bien entendu, on y arrive, Michel, dans la foi bahaï, cette consultation, elle est prépondérante, la vie spirituelle de la consultation est prépondérante, enfin la spiritualité, sa dimension spirituelle est essentielle. C'est-à-dire que à tout moment, quand on est en train de prendre une décision, on doit se tourner vers Dieu pour demander l'assistance divine dans notre consultation. Parce qu'on l'a vu, là, les six aveugles, ils ont eu chacun un petit morceau de l'éléphant, mais si vraiment on colle les six morceaux de l'éléphant, il y a quand même encore une partie qu'ils n'ont pas vue. Donc, nos sens, ils ne nous donnent pas 100% de la réalité, même si, pas nos sens, mais notre éducation, nos sens, notre raison, notre inspiration, tout ça, même si on rassemble tout ça, c'est pas fiable à 100%. Et donc, il nous reste peut-être, je dis ça au hasard, hein, 20% ou 30% qu'on ne connaît pas avec toutes ces connaissances qu'on a. Donc, les 30% qu'on ne connaît pas, il nous faut l'assistance divine pour qu'elle nous aide au moins à trouver le chemin de la vérité, si ce n'est la vérité elle-même. Donc vraiment, il y a cette assistance divine qui doit nous accompagner à chaque fois qu'on consulte pour essayer de prendre la meilleure décision qui soit. Et puis, on va terminer avec une petite phrase qui est de Baha'u'llah et qui résume bien tout ce qu'on vient de dire ce soir. Ouais. Donc, qui veut la lire pour terminer ?
Aucun bonheur et aucun bien-être ne pourra être atteint que par la consultation.
Propager cette consultation. Voilà.
Super.
Oui.
Ça veut dire que quand tout le monde est d'accord, c'est l'exemple parfait, c'est la maison universelle de justice. Bien sûr, on n'arrive pas à ce niveau dans notre consultation. Mais quand tout le monde est d'accord et il y a l'unanimité, eh ben c'est normal que tout le monde est content et tout le monde est heureux et tout le monde veut rendre service.
Voilà, mais donc bien prendre en compte que cette consultation, on peut la faire à tout moment de la journée, hein, que ce soit quand on est avec quelqu'un sur des sujets qui sont complètement en dehors de la vie spirituelle qu'on peut avoir d'un autre côté, mais quand on consulte, alors celui qui est spirituel, lui, il demande l'assistance divine, mais on peut le faire aussi avec des personnes qui ne sont pas du tout spirituelles et qui peuvent quand même comment dire, saisir certaines choses de cette consultation et améliorer leur manière de prise de décision, en fait.
Oui, comme planter des fleurs dans le jardin.
Voilà. Tout à fait.
Par exemple, en cas de problème dans une famille, on peut consulter lors d'un repas ou... Enfin, ça peut se faire?
Bien sûr.
Quand on est en famille, il y a un différent, on peut faire une partie consultation?
Oui, 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 bien sûr, sans problème. Le but, en fait, c'est d'essayer de garder ce qu'on a vu au départ, cette unité, cette bienveillance envers les autres, d'accepter, de respecter toutes les opinions qui sont émises, et puis d'essayer de trouver la meilleure solution au moment donné.
En fait, c'est notre vie quotidienne. Je pense que la consultation fait partie de notre vie quotidienne, qu'on soit en famille, en couple, comme tu dis, mais aussi en vie, tu disais tout à l'heure, mais c'est possible, en fait, d'apporter ça, par exemple, au travail ou à l'extérieur. On peut, en appliquant tout ça, on peut faire des consultations très productives par rapport à ça. Si on applique en fait la consultation, l'idée de la consultation, c'est possible de le faire. Il faut juste essayer de le proposer.
Oui, et le proposer, c'est une chose. Que ce soit accepté, c'en est une autre. Et c'est là, en fait, probablement que... Oula, c'est bien ce qui se passait quand il a lancé ses idées. Il a eu l'adversité, il a eu le refus de la société, des structures existantes, etc. Et ça, c'est banal, ça fait 170 ans que ça dure. Donc, quand rien ne marche, évidemment, ce qui me semble intéressant, c'est de consulter Dieu au moins et ceux qui sont de bonne composition avec nous. Mais en dernier ressort, c'est d'être profondément ancré dans cette consultation permanente de la vie et de sa profondeur. Alors, évidemment, quand on est entre bail, cet esprit, il est déjà posé parce que le cadre est a priori accepté. Dans une société où on peut proposer et où ça peut être accepté, eh bien, c'est magnifique de pouvoir cheminer dans cette dimension-là. Mon expérience personnelle au milieu, dans le cadre politique ou religieux d'autres systèmes, montre que des limites sont très très vite touchées, aujourd'hui en tout cas.
Ah ben, on ne dit pas que ça sera du jour au lendemain, Henri, hein. On dit que si on y travaille de longue haleine, on va y arriver.
Ça fait des années avec certains qui sont, je pense, au milieu politique. Pourtant, c'est mon voisin, c'est le maire. Hein. Eh bien, c'est même pas la peine d'essayer. Sur le papier, dans le discours, ça fonctionne, sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Et donc, ma sans la foi, ça fait longtemps que j'aurais jeté l'éponge. Oui. Donc, la foi, c'est cette dimension de la prière qui est le fondement même de tout cela. Et c'est pour ça que la question qu'il y avait tout à l'heure à propos de la prière, c'est évidemment pour moi, ce regard qui se tourne vers Dieu, c'est la première condition. Et encore plus quand on est en milieu hostile, entre guillemets, parce que c'est là que les miracles peuvent se manifester, mais pas forcément où on les attend. Voilà.
Voilà. Merci, Henri. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais par exemple, Véronique, que la plupart d'entre vous connaissent, elle dit, moi, j'essaie de l'appliquer au maximum, mais c'est vrai que ça change des choses dans les réunions que je peux avoir. Donc, après, c'est pas forcément facile à mettre en place, c'est pas forcément immédiat, mais les petites choses peuvent avancer et c'est comme ça que la société avancera avec. Oui, Gloria, tu voulais dire quelque chose?
Non, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où, comme disait Henri, le maire ou les personnes que moi je côtoie aussi, ils sont pas nés dans cette façon d'éducation baraï de la consultation et la spiritualité. Donc, il faut leur apprendre, quoi. Il faut leur apprendre. Donc, tu ne vas pas leur proposer la consultation parce qu'ils ne connaissent pas. Si tu leur parles comme d'un fruit qui vient de l'Amazonie péruvienne, c'est la même chose. Oui, donc, tout le monde ne connaît pas la consultation. ça va être plus difficile à mettre en place avec un groupe qui est non bahaï ou qui est moins ouvert.
Tout à fait.
Il y a des groupes comme à la Croix-Rouge internationale ou aux Nations Unies, des bahaïs qui sont impliqués dans les grandes décisions. On a des exemples autour de nous qui arrivent à mettre en place la consultation bahaï à proprement dit, mais sans forcément parler de la foi bahaï, mais de donner les idées de base, et ça fonctionne très bien.
Il faut juste proposer, c'est tout. Voilà. Ben écoutez, pour moi c'est fini. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, je vous laisserai aller consulter d'autres sources, donc bahai.fr, bahai.org, bahai-chambéry.fr. Vous avez un petit article sur la consultation qui reprend ce qu'on a dit un petit peu ce soir. Et puis sinon, donc il y a beaucoup d'écrits aussi sur le site de la médiathèque Bahai sur la consultation, puisqu'il y a un petit livret, Henri, qui devait faire partie de ta sélection que tu avais pris, voilà. Donc, qui rassemble un petit peu tous les écrits sur ce sujet-là. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, que pour une première, voilà.
Au revoir.
Merci à vous d'avoir participé.
Merci, à bientôt.
Parce que toute seule, ça aurait été moins drôle. Voilà, à vous de vous mettre en action au quotidien pour faciliter les prises de décision dans la société. Merci beaucoup. Voilà.
Merci, hein, c'était très très bien, vraiment très bien, très intéressant.
Super. Merci Sabine, à ton travail. Merci à vous. Ouais. Et puis, bonne soirée.
Merci. Oui.
Bonne soirée à vous, prenez soin de vous comme on dit maintenant, hein, et puis on espère à très bientôt pouvoir se revoir concrètement et pas derrière juste un écran.